Chapitre 20e. Naufrage, bonheur providentiel, catastrophe épouvantable, singulière détermination du capitaine, résignation héroïque de François Combalot, la Doris abandonnée. Il était alors 11 heures du matin. Le ciel pur, à peine ridé par quelques nuages légers et blanchâtres, nous présageait une journée superbe. Nos voiles, brassées en pointe, attendaient le vent. Il n'y avait rien à faire. Le capitaine, fatigué par ses calculs et affaibli par sa blessure, profita de ce moment d'inaction pour aller prendre un peu de repos dans sa cabine. Comme dans cette absence de toute manœuvre, rien ne nécessitait la présence de tout l'équipage sur le pont, M. Boudin, le second, homme peu marin, me pria de descendre dans la cambuse avec quelques-uns de nos hommes et de nos noirs fidèles pour y opérer un rangement devenu indispensable par suite de la consommation d'une partie des provisions. M. Boudin, après m'avoir donné cette mission, car il n'entendait rien à l'arrimage, prit le quart à ma place. François Combalot, qui, depuis la mort ou la disparition du chat, avait tout à fait perdu sa gaieté, était alors à la barre. J'étais dans la cambuse à peu près depuis 20 minutes, quand une fraîcheur soudaine et tout à fait inattendue se répandit dans la cale et appela mon attention. Soudain, je sens le navire qui s'incline d'une façon tellement effrayante que le désarrimage le plus complet s'ensuit. Aussitôt, tous les objets d'armement roulent avec fracas du côté de tribord. L'équipage pousse des cris d'épouvante, et j'entends la voix du second d'abord et celle du capitaine ensuite, qui commande « La barre au vent ! Amène les perroquets, les huniers, le pic ! Largue les écoutes du grand hunier !» Le doute ne m'est pas possible, quelque grand malheur vient d'arriver. Je m'élance aussitôt vers la porte de la dunette, un torrent d'eau me renverse. Je me relève vivement et je parviens à me hisser non sans peine sur la partie du navire qui n'est pas encore submergée. Combalot est le premier matelot que j'aperçois. Il a un air hagard, épouvanté, qui me frappe d'une surprise d'autant plus grande que je connais l'intrépidité et l'admirable sang-froid dont cet homme est doué. Comment cela est-il arrivé? Car le navire était chaviré. « Je ne sais, lieutenant, » me répondit-il avec embarras. On dit que c'est un grain blanc qui nous a assaillis à l'improviste et a fait chavirer le navire devenu rebelle au gouvernail. Mais c'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai? Lieutenant, voyez-vous, me répond à voix basse Combalot, ce malheur vient de la mort du chat. C'était écrit là-haut. Nous ne pouvions pas l'éviter. À présent, comment peindre la consternation de notre équipage et la position dans laquelle nous nous trouvions? Ce n'est pas possible. Nos matelots, accrochés à la mâture et au point de la carène que la mer n'a pas encore envahie, regardent, immobiles, muets, d'un œil hébété, les vagues qui bondissent les couvrants de leur écume et semblent vouloir les saisir. Une minute, une seule minute, et pas un de nous peut-être ne sera plus vivant. Comme jamais encore je n'avais entendu rapporter un exemple d'un navire chaviré, qui n'eût point coulé immédiatement, je m'attendais à chaque seconde à voir la Doris s'abîmer dans les flots. À chaque secousse que lui imprimait la mer, je fermais instinctivement les yeux pour ne point assister au drame terrible dont je devais être la victime. Je regardais ma mort comme une chose tellement inévitable que je ne songeais même pas à chercher un moyen qui me permît de disputer ma vie. Le lecteur croira peut-être que l'homme, dans une position aussi affreuse et aussi désespérée que celle dans laquelle je me trouvais, doit éprouver un désespoir profond, être en proie à une terreur extrême. Il n'en est rien, cependant. Soit que l'excès de l'émotion ou de la peur, en paralysant vos facultés, vous conduise à une espèce d'insensibilité, soit que l'instinct de la conservation perde une grande partie de sa force en face d'une mort certaine, assurée, toujours est-il que le sentiment dominant parmi l'équipage de la Doris, dans ce moment critique, était celui d'une résignation passive et inintelligente. Cependant, lorsque nous vîmes, après 2 ou 3 minutes, que notre brick resté couché sur tribord, ne s'enfonçait pas dans l'abîme, un immense espoir nous vint au cœur et nous commençâmes à reprendre courage. Plusieurs de nos matelots, passant de leur apathie de brute à une ivresse irraisonnée, se mirent à verser des larmes de joie et à remercier Dieu avec transport. Celui de nos hommes, qui le premier de tous songea à sauver sa vie, ce fut le bordelais Ducasse, qui se glissa furtivement derrière nous, pour s'embarquer dans le canot que la Doris traînait à sa remorque depuis Zanzibar, et dont la bosse s'était, par bonheur au moment de la catastrophe, trouvée attachée au couronnement du bord du vent. Cette embarcation, celle que nous avions dédoublée, était la seule que nous possédions, car le lecteur doit se souvenir que nous avions été obligés d'abandonner les autres à la douane de Zanzibar lors de notre fuite de ce port. Elle nous représentait donc notre unique moyen de salut. On ne s'étonnera pas, en songeant à cela, que tous les yeux fussent tournés vers le canot et que 10 personnes, au risque de tomber à la mer, se précipitèrent en abandonnant à la hâte leurs abris entre l'embarcation et Ducasse. « Garneret, me dit alors le capitaine, sautez dans le canot avec Maître Fleury et allez détacher en toute hâte les espars qui pourront nous servir à la construction d'un radeau. » Ce mot de radeau, avidement recueilli par l'équipage, fit battre de joie tous les cœurs. En effet, avec les brises assez constantes qui règnent dans ces parages, et ne nous trouvant qu'à une quarantaine de lieues au plus de la côte, nous pouvions espérer avec raison arriver à terre. « Il faut au moins 2 hommes pour conduire l'embarcation, tandis que le 3e détachera les espars, » dit Ducasse, qui, avant que j'aie eu le temps de lui répondre, s'est glissé dans le canot entre Maître Fleury et moi et a poussé au large. Le navire gisait alors, je l'ai déjà dit, sur la côte de Tribord, et bien que la mâture battît la vague à chaque roulis, ce qui rendait notre travail excessivement difficile et pénible, nous parvînmes cependant à détacher les basses vergues qui devaient servir de base dans la construction du radeau. Ce ne fut pas non plus sans danger que nous parvînmes à accomplir cette tâche, car les nègres dispersés dans le gréement tentaient de s'emparer par la violence et par la surprise de notre canot, et nous avions toutes les peines du monde à les repousser. C'était en vain que nous faisions tous nos efforts pour les calmer et les convaincre que dans notre position critique, la bonne entente de tous pouvait seule nous sauver, qu'au reste, nous ne voulions pas les abandonner, au contraire, que nous allions construire un radeau qui nous permettrait à tous d'atteindre la terre. Dominés par la peur, insensibles à la voix de la raison, ils n'en continuaient pas moins sur nous leurs dangereuses tentatives, nous accablant d'injures et nous menaçant de nous massacrer. Leur exaspération finit même par se monter à un tel degré que, dans la crainte de voir ces misérables envahir notre frêle embarcation, nous fûmes obligés de gagner le large. Nous étions désespérés. En effet, la construction de ce radeau, qui était notre seul et unique moyen de salut, devint, grâce à la stupide fureur des Africains, une chose tout à fait impossible. Nous nous tenions stationnaires à quelques brasses de l'arrière de la Doris, quand M. Liard, se penchant de notre côté et se faisant une espèce de porte-voix naturelle avec ses 2 mains, de façon que ses paroles nous arrivassent sans être entendues par ceux qui se trouvaient à bord, nous héla d'accoster le couronnement en déguisant notre évolution de façon à donner le change aux nègres. Feignant aussitôt de diriger la pirogue sur l'avant du navire, où les noirs se portent de suite en foule pour s'emparer de notre embarcation, je fais scier et j'accoste la poupe avant qu'ils puissent se douter de mon dessein. Aussitôt, M. Liard, M. Boudin et le frère du maître d'équipage Fleury, qui se tenaient sur le couronnement de la Doris, sautent dans le canot et nous poussons au large. Un capitaine, on le sait, doit toujours être le dernier à abandonner son navire. Aussi, ma première pensée fut-elle, en recueillant M. Liard, qu'il voulait s'assurer par lui-même de la possibilité de construire un radeau et qu'une fois son opinion formée à cet égard, il retournerait à bord. Cependant, en considérant son air effrayé, sa pâleur, le tremblement convulsif qui agite ses membres, je comprends bientôt que je me suis trompé et qu'il ne songe qu'à fuir. Je ne doute même plus que cet embarquement, en dehors de toutes les lois de l'honneur et du devoir, n'ait été concerté à l'avance entre M. Liard et son second, M. Boudin. À peine le canot s'est-il éloigné de quelques mètres de la Doris, que les nègres qui nous attendaient sur l'arrière, comprenant qu'on les abandonnait, se précipitent en foule à la mer et se mettent à notre poursuite. Nous prenons chasse devant eux. Peu à peu, le nombre de ces malheureux diminue d'une façon effrayante. Les uns sont trahis par leur force, les autres deviennent la proie des requins. À chaque instant, un cri retentit, une malédiction nous est adressée et un homme disparaît. C'est à peine si nous osons tourner nos regards vers la Doris, tant le spectacle que présente notre pauvre brick est affreux. Chaque lame entraîne dans son ressac des femmes et des enfants que nous voyons tourbillonner une minute, puis s'enfoncer dans l'abîme. Les écoutilles ouvertes vomissent les cadavres des infortunés qui, au moment de la catastrophe, se trouvaient enfermés dans le faux pont. Cela ne peut s'imaginer ni se décrire. Quelques captifs dans la force de l'âge fendent la mer de leur large poitrine et soutenus par un suprême désespoir, parviennent jusqu'à notre embarcation. Mais notre canot, qui n'a que 9 pieds de long et ne supporte déjà qu'avec peine le poids de 6 hommes, va couler si un seul d'entre eux parvient à y monter. Alors, ma plume se refuse à retracer la sauvage fureur qui s'empare de messieurs Liard et Boudin. Pas un seul des nègres ne peut réussir à escalader notre frêle esquive. Les avirons dont le capitaine et son second se sont armés ruissellent de sang. Pendant 2 heures, 2 siècles, nous restons en vue de la Doris, et penser que si les Africains consentaient seulement à se tenir tranquilles, à nous laisser travailler, nous parviendrions peut-être à relever le navire, en tout cas à construire un radeau. Voir la réussite, le salut de tous à notre portée et ne pouvoir y atteindre, ah, ce supplice n'est pas le moins cruel de tous. Messieurs, nous dit enfin le capitaine après avoir échangé avec M. Boudin, un regard d'intelligence que je surprends au passage, que devons-nous faire? À moi, il me semble que dans l'intérêt de tous, nous devons gagner au plus vite la haute mer et nous diriger vers la côte. Pour peu que le vent nous protège, nous atteindrons la terre en 2 jours et nous pourrons le revenir au secours de nos pauvres amis. Capitaine, lui dis-je, notre honneur n'appartient qu'à vous, et vous êtes certes libre d'en disposer à votre gré. Seulement, il ne nous est pas permis d'attenter à celui des autres. Or, comme je suis officier, et que mon grade m'ordonne de n'abandonner le navire sur lequel je navigue qu'après que le dernier matelot en est parti, je retourne à bord de la Doris. Êtes-vous fou, Garneret ? S'écrie Liard. Réfléchissez-vous bien à ce que vous dites. Cela est tellement simple, capitaine, que la réflexion n'a rien à y voir. Ainsi, vous êtes bien décidé à rester sur la Doris. On ne peut plus décider, capitaine. Soit, mais de quelle façon comptez-vous y retourner ? Cette question me donna à réfléchir. À la nage, capitaine, lui répondis-je, car vous ne consentirez probablement pas à m'y conduire. À la nage ? Regardez donc un peu, Garneret, les ailerons noirs des requins qui sillonnent de tous côtés la mer alentour de nous. Croyez-vous que les nègres et ces voraces et impitoyables ennemis vous laisseront accomplir en paix le trajet qui nous sépare du brick? Votre projet, convenez-en, est insensé et ne mérite même pas d'être combattu. Mais, capitaine, je suis officier, et comme tel, je dois... Non, monsieur, vous n'êtes point officier, s'écria le capitaine en m'interrompant. Ne touchant point d'appointement et ne participant pas aux bénéfices de la traite, votre position à bord de la Doris n'a jamais été, et vous-même avez assez souvent pris soin de me le rappeler, que celle d'un simple auxiliaire. Après tout, voilà déjà trop de temps perdu en vaines paroles. Si vous tenez absolument à servir de pâture aux requins, libre à vous de vous passer cette fantaisie. Quant à moi, comme je suis capitaine et maître ici, je n'ai que faire de votre opposition et de vos remontrances. Cette observation, qui me parut assez juste, jointe à la vue des nombreux requins qui prenaient leurs ébats et se prélassaient dans l'immense curée de notre catastrophe, m'empêcha d'insister. Je me permis toutefois de répondre à M. Liard que peut-être ferions-nous bien de nous rapprocher de la Doris pour essayer d'embarquer avec nous ceux des matelots qui ne craindraient pas de nous rejoindre à la nage. « Votre avis ne vaut rien, » me répondit M. Liard, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est probable que les requins ne laisseraient arriver que peu de nos amis jusqu'à nous. La seconde, c'est que le poids d'un seul homme en plus serait capable de couler notre canot. Il ne faut donc point songer à cela. Néanmoins, je suis d'avis de nous rapprocher de la Doris pour tâcher de nous procurer une boussole que l'on pourrait nous jeter. Qu'en pensez-vous, mes amis ? Les deux Fleury, Ducasse et surtout M. Boudin, qui pendant ma discussion avec le capitaine n'avait pas hésité à se ranger du parti de ce dernier, l'approuvèrent. Un quart d'heure plus tard, nous arrivions, après avoir nagé vigoureusement, à une encablure de notre pauvre brick. Jamais je n'oublierai les supplications et les prières que nous adressèrent pour que nous leur permissions de nous rejoindre, le charpentier Martin, le tonnelier Boubert, le matelot Perrin et le lamentable Fignolet. Elles me déchirèrent le cœur et je crois les entendre encore. François Comballeau seul, monté sur la partie la plus élevée de la coque du navire, son poing gauche appuyé sur la hanche, sa tête orgueilleusement rejetée en arrière, n'implora pas notre pitié, loin de là même. « Mes amis, nous dit-il, le mieux que vous ayez à faire est de décamper au plus vite et d'aller nous chercher des secours. N'écoutez point les jérémiades de tous ces blagueurs, ils ne savent ce qu'ils veulent. « Mais qu'allez-vous devenir, François ? » m'écriai-je. « Merci de votre intérêt, lieutenant, » me répondit-il. « Je pense qu'avant demain matin, tous nos moricots auront fait le plongeon. alors nous pourrons nous occuper à établir un radeau. Eh bien, lieutenant, trouvez-vous toujours que ce soit une bêtise de croire à l'influence de la mort d'un chat ? Voyant, après quelques pourparlers, qu'il ne serait impossible d'obtenir la boussole que nous désirions, et que les hommes restés à bord de la Doris eussent été obligés d'aller chercher dans la chambre inondée par la mer, nous adressâmes un dernier adieu à nos malheureux compagnons et nous poussâmes au large. « Bien du plaisir et de l'agrément, » nous cria François, « et tâchez de revenir le plus promptement possible. » « Ça ne fait rien, capitaine. Là, sans rancune, permettez-moi de vous faire observer, avec infiniment de respect, que vous avez, en appareillant de Bourbon à vendredi, fait une brioche énorme. » François, fort satisfait d'avoir pu proclamer bien haut, en l'envoyant à l'adresse de qui de droit, cette vérité qui l'étouffait, se mit alors à brailler à tue-tête le couplet de l'opéra comique du déserteur. « Mourir n'est rien, c'est notre dernière heure. Chaque minute, chaque pas, ne mène-t-il pas au trépas ?» Forçant alors Dora, nous nous éloignâmes rapidement de la Doris. Pendant longtemps, la voix de François, mêlée aux imprécations des nègres, arriva distincte, comme un poignant remords, jusqu'à nous. Peu à peu, elle se changea en murmure, et cessa bientôt après. Mais nos cœurs s'entendaient toujours. Lorsque nous débordâmes de la Doris, nos observations astronomiques nous plaçaient à environ 45 lieues à l'est-sud-est de l'île de Zanzibar. Le canot qui nous portait naviguant par la puissance de ses avirons et celle du courant, cheminait le cap en route, faisant à peu près 2/3 de lieue à l'heure. Si, comme la saison nous le donnait à supposer, nous étions favorisés par la brise, 2 jours de navigation nous suffiraient pour aborder l'île de Zanzibar. Nous pouvions donc, en ce cas, raisonnablement espérer pouvoir retourner assez à temps auprès de nos compagnons pour leur porter secours.